Didier Gougis est avec vous cette semaine et je n'ai pas d'invité pour une fois. Dimanche prochain auront lieu les élections législatives et je voudrais revenir sur les enjeux de ces élections et sur les critères que la tradition de l'Église nous propose, notamment à travers sa doctrine sociale. Et je m'appuierai aussi sur les textes récents qui ont été publiés par les évêques de France. Il s'agit donc de poursuivre la réflexion entamée avant les élections présidentielles, puisque bien sûr, les élections législatives en sont le prolongement. Aujourd'hui, on est souvent sommé de prendre des positions marquées, sans nuance, et donc simplistes, et qu'on peut, si possible, résumer en un tweet. Mais ce n'est pas du tout la tradition chrétienne qui s'enracine dans l'attitude même de Jésus. Il s'agit au contraire d'avoir une réflexion un peu distanciée, non passionnée, basée sur la raison plus que sur l'émotion. Il est important aussi d'avoir une vue large. Il s'agit de contribuer à construire un projet commun pour notre pays. On ne saurait se déterminer uniquement sur une partie d'un projet politique, mais nous devons en prendre en compte tous les aspects. Par exemple, un certain nombre de chrétiens attachent beaucoup d'importance aux questions qui concernent la vie humaine et la famille. Ils ont raison, bien sûr, mais ce ne sont pas les seules questions à prendre en compte du point de vue de l'Évangile. La question de la pauvreté, de la solidarité avec les plus démunis, avec les étrangers, sont tout aussi essentielles au vu de la doctrine sociale de l'Église. De même que les questions du partage des richesses, du droit au travail et à une vie digne, ou encore celui du logement. Je vous propose donc de revisiter le document publié par les évêques de France il y a un an et qui s'intitule « 2017, année électorale, quelques éléments de réflexion ». Un an d'avance, ils ont pris de la distance pour publier ce texte, mais bien entendu, justement, c'est la distance qui nous aide à réfléchir un petit peu plus au fond. Je lis. Si nous voulons progresser dans les pratiques démocratiques, nous devons promouvoir l'exercice du droit de vote en développant dans la société un véritable débat qui échappe aux postures, aux petites phrases et aux ambitions personnelles. Donc là, c'est dans l'introduction de cette petite lettre, hein, c'est un document de quelques pages seulement. Il s'agit bien sûr d'inciter à prendre ses responsabilités dans le droit de vote, mais surtout à instaurer un véritable débat. Alors on voit bien que c'est toujours d'actualité et que malheureusement, on a beaucoup de mal à entrer dans ce débat qui soit vraiment sur le fond. Un petit peu plus loin. Pour favoriser un véritable débat national, la campagne électorale à venir devra éviter les risques de crispation identitaire tout en faisant droit aux fêtes nationales. Nos racines, notre culture, notre patrie avec son histoire, ses responsabilités, ses atouts, la place et l'importance du fait religieux et des religions. Voilà, c'est un équilibre à trouver entre le risque des crispations identitaires, mais bien sûr, faire droit aux fêtes nationales, c'est-à-dire que la France est une nation et qu'elle a une histoire. Il s'agit donc, dans ce débat démocratique, de l'engager sur le fond, et donc ils intitulent la partie suivante « Pour un projet de société ». Ce débat démocratique doit être une occasion d'expliciter quel projet de société nous voulons soutenir et promouvoir. Trop souvent, les critères mis en avant se limitent à envisager, exprimer les données économiques comme si l'économie était le seul facteur de construction de la qualité de la vie humaine, personnelle et collective. Et c'est vrai que c'est un risque que les économistes prennent trop de pouvoir et que ce soit le critère numéro un. Les évêques insistent sur le fait que l'être humain est plus qu'un élément du processus économique. Et c'est donc vers une économie du partage que nous devons avancer, vers un partage plus équitable du travail et des fruits du travail. Un tout petit peu plus loin, ils nous disent « La qualité humaine d'une société se juge aussi à la manière dont elle traite les plus faibles de ses membres, ceux qui sont laissés au bord du chemin de la prospérité, les personnes âgées, les malades, les personnes handicapées. Nous ne pouvons être indifférents à aucune victime de notre société. Nous sommes responsables du respect de toute vie, de son commencement à sa fin. » La partie suivante s'intitule « Vers un pacte éducatif ». Et bien sûr, ils vont attirer l'attention sur l'enjeu de la meilleure qualité de l'éducation des jeunes. Cette amélioration toujours nécessaire repose sur la qualité de la scolarisation, qui est trop souvent soumise à des réformes auxquelles on ne donne pas le temps de porter leurs fruits et sur lesquelles on ne fait que trop rarement une véritable évaluation. Mais surtout, elle passe par une confiance à rétablir entre les familles et l'école. Et c'est un véritable pacte éducatif qui doit unir les familles et l'école, non pas une concurrence et encore moins une méfiance. Voilà, et dans ce pacte éducatif entrent en ligne de compte beaucoup d'éléments, et notamment la stabilité des familles. Voilà ce qu'ils nous disent, toutes les dispositions législatives ou réglementaires qui affaiblissent la stabilité des familles et les moyens d'exercer leurs responsabilités ne peuvent jamais être compensées par une exigence incantatoire envers l'école. Voilà, chacun son rôle, l'école n'a pas à combler les difficultés des familles. C'est une politique familiale aussi qui doit le faire. La marginalisation, nous disent-ils, d'un nombre croissant de familles, les mesures qui brouillent la filiation, celles qui favorisent les divorces et l'éclatement des familles, sont payées très cher par leurs premières victimes, les enfants. On ne peut pas espérer faire progresser la cohésion sociale en négligeant son tissu nourricier qui est la cohésion familiale. Les liens entre l'éclatement des familles, l'échec scolaire, la marginalisation des jeunes, parfois jusqu'à la délinquance, sont avérés, même si nous ne souhaitons pas le reconnaître. Voilà, donc chapitre suivant, il s'agit de la solidarité. Bien sûr, tout ça est cohérent, hein, la solidarité s'exerce envers les familles, mais là, ils ont un chapitre intitulé « Solidarité » parce qu'ils vont élargir. Une société vivante ne peut pas être la simple addition d'intérêts ou d'accords particuliers, elle repose nécessairement sur la recherche du bien commun et la mise en œuvre de moyens de solidarité efficaces. C'est une des grandes responsabilités de l'État d'organiser cette solidarité, surtout dans les périodes de grandes difficultés économiques. Donc, la responsabilité de l'État ne doit pas être noyée, hein, il s'agit bien d'une responsabilité essentielle que d'organiser, de mettre en œuvre une solidarité entre les citoyens. Dans notre société, disent-ils, l'écart entre ceux qui peuvent compter sur la sécurité et ceux qui sont plongés dans la précarité ne cesse de s'accroître. De plus en plus de nos concitoyens ne peuvent plus bénéficier du droit au travail. Il est illusoire de penser que des indemnités financières peuvent compenser cette carence. La fragilité de l'emploi suscite des crispations de la part de ceux qui jouissent d'un emploi garanti et d'avantages sociaux assurés. La défense des droits acquis ne se substitue à la volonté de partager et d'intégrer de nouveaux bénéficiaires. Les plus jeunes sont les premières victimes d'un système inégalitaire. Donc là, c'est un grand travail à faire, hein, autour du statut et du droit au travail, mais en même temps une solidarité entre les différents acteurs qui ont du travail et ceux qui n'en ont pas. Il y a un appel à partager le travail, il y a une réflexion sur ce que doit être le travail dans notre société d'aujourd'hui et de demain. L'État doit gérer positivement la tension entre un libéralisme sans contrôle et la sauvegarde des mécanismes de protection sociale, assurance maladie, retraite, chômage, etc. Cet objectif doit nécessairement ressortir des projets soumis au vote des citoyens. Donc un objectif d'équilibre, hein, entre ces deux tensions, entre le libéralisme sans contrôle qui risque d'advenir et qui nous guette toujours, et puis sauvegarder des mécanismes de protection sociale. Et puis, bien sûr, les évêques nous parlent de la question des migrants et des migrations. C'est un sujet qui est au cœur de la Bible, hein. On le retrouve en permanence, l'accueil de l'étranger. Voici ce qu'ils nous disent. Dans une époque où les distances et les frontières s'effacent devant la mondialisation économique et culturelle, notre volonté de solidarité ne peut pas s'enfermer dans le cadre restreint de notre pays. Les événements dramatiques qui frappent les populations du Moyen-Orient ou d'Afrique jettent sur les routes et sur la mer des centaines de milliers de réfugiés, véritables naufragés humains. Quand la Jordanie et le Liban reçoivent des millions de réfugiés, comment notre pays pourrait-il reculer devant la perspective d'accueillir et d'intégrer quelques dizaines de milliers de ses victimes ? Mais plus largement que l'accueil des réfugiés, nous devons nous interroger sur la manière dont nous traitons des migrants arrivés dans notre pays depuis plusieurs années. Est-il aujourd'hui tolérable que des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants vivent sur notre territoire dans des conditions trop souvent inhumaines ? Une volonté d'intégration ne peut se réaliser sans accompagnement des ruptures culturelles. Et puis, immédiatement après, les évêques nous parlent de l'Europe, parce que bien sûr, il y a un lien entre tout ça. Nous sommes bien conscients que la France, à elle seule, ne peut solutionner ces situations dramatiques, nous disent-ils. Soit elle nourrit l'illusion de pouvoir barrer la route à toutes les misères pour protéger sa relative prospérité, soit elle s'engage courageusement dans des politiques d'accueil. Et évidemment, c'est cette deuxième solution que nos évêques prônent et pour laquelle ils nous demandent de nous engager. S'engager courageusement dans des politiques d'accueil. Mais l'accueil serait aussi une illusion s'il ne s'accompagnait pas de véritables programmes de soutien dans les pays d'origine des migrations. Soutien économique, soutien politique, pour lutter contre la misère endémique et les procédés antidémocratiques de certains gouvernements. Et puis, pour finir sur le chapitre de l'Europe, les évêques nous disent que le projet européen ne peut se poursuivre ni se développer sans une véritable adhésion des peuples d'Europe. Et cette adhésion suppose de respecter davantage le fait historique et culturel des nations qui composent le continent. Une véritable pratique de la subsidiarité, c'est-à-dire la responsabilité au plus près du terrain, telle qu'elle est inscrite dans ces textes fondateurs, serait une nouvelle chance pour l'Europe. Donc c'est là un appel à renouveler le projet européen et à le fonder sur vraiment une adhésion des peuples. Et là, c'est tout un pan de projet politique à développer. Et puis il termine par le dossier de l'écologie. Sur le sujet de l'écologie, la décision de M. Trump, qui a été toute récente, redonne une actualité à ce thème, une actualité qui est brûlante. Hein. Il y a à peine un an, nous disent-ils, la tenue en France de la COP21 nous sensibilisait à notre responsabilité commune envers l'humanité. Le pape François nous a rappelé gravement cette responsabilité de l'encyclique Laudato Si. L'enjeu écologique n'est pas simplement une vision naturaliste du monde, c'est une prise de conscience morale des risques de déséquilibre climatique et économique que court la planète. Responsable de la maison commune, il nous faut mieux tenir compte des dégâts que provoque une société tout entière fondée sur l'augmentation de la consommation. Voilà. Et donc, la conclusion, c'est un appel à l'espérance. Ils nous disent « Trop de nos concitoyens sont arrivés à croire que la situation est bloquée et que personne n'est capable de la débloquer. Et pour celles et ceux qui ont foi en Dieu et qui vivent dans la communion au Christ, les difficultés que nous rencontrons ne sont pas un appel au renoncement. Au contraire, elles nous acculent à investir toutes nos capacités pour construire une société plus juste et plus respectueuse de chacun. Cela s'appelle l'espérance. » Et c'est vrai que les chrétiens ont certainement une mission d'espérance dans ce monde, qui en manque beaucoup. Nous sommes donc tout proches des deux tours de ces élections législatives. Afin de choisir notre bulletin, prenons donc le temps de bien peser les critères de choix. Un des enjeux importants, c'est de réconcilier les Français pour travailler ensemble au bien commun. Pour les chrétiens, le souci des plus pauvres et des plus fragiles est au cœur de leurs préoccupations, comme il l'a été pour Jésus tout au long de sa vie terrestre. Enfin, disons-nous que chercher à empêcher de gouverner ne peut pas être le premier motif du choix d'un bulletin de vote. Il s'agit de bâtir un projet commun de société pour notre pays. Je vous rappelle que cette émission est diffusée le lundi à 10h15, le mercredi à 16h15 et rediffusée le vendredi suivant à 7h. Et bien sûr, vous pouvez l'écouter ou la télécharger partout et à toute heure sur radiograndciel.fr. Merci à Simon qui a assuré la technique de cette émission et à bientôt sur Radio Grand Ciel.